un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund. Cette semaine, exologie et autres reportages d'Adila Benedjaizou. Exologie, c'est une série dans laquelle notre productrice Adila Benedjaizou retrouve certains de ses ex pour tenter de comprendre son célibat, dont elle estime qu'il dure trop longtemps. C'est à la fois sa véritable histoire, ses ex, anciens compagnons ou amants, mais ça n'est pas tout à fait sa vie non plus. Elle a fait des choix, sélectionné les ex qui l'intéressaient, d'autres ont refusé de lui parler d'ailleurs, et à la fin, elle en a gardé ce qu'elle a jugé susceptible de nous intéresser ou d'être pertinent dans son propos. Bref, elle fait une sorte d'auto-fiction d'elle-même, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Nous en sommes aujourd'hui au 4e épisode. Son enquête se poursuit maintenant en allant voir des hommes qui ne sont pas exactement des ex, disons plus fugitifs, mais pas toujours moins importants, qu'elle a rencontrés à partir de 2007. À ce moment-là, l'amour est représenté au cinéma par les comédies de Jude Apatow, comme 40 ans et toujours puceau, ou En cloque, mode d'emploi, qui montrent des grands ados incapables de se mettre en couple ou de fonder une famille. La série Sex and the City, dans un esprit différent mais sur le célibat, est diffusée jusqu'en 2004 et elle ne cesse de nourrir les représentations de l'amour. Exologie, 4e épisode, Adila Benedjaizou.
Je vais vous inviter à mettre vos mains comme ça. Vous pouvez appuyer vos coudes sur vos côtes. Et puis en mettant vos mains comme ça, du coup, vous allez pouvoir fixer un point. L'idée, voilà, c'est très bien ce que vous faites, c'est de défocaliser le regard. C'est-à-dire que en regardant le point, vous regardez. Vous ne regardez pas directement vos mains, mais vous les voyez. C'est ce qu'on appelle une vision périphérique. Et cette vision-là, c'est une porte d'entrée vers l'hypnose. Voilà, la respiration qui a changé de rythme. Peut-être que vous avez conscience que vos mains bougent.
Pourquoi suis-je célibataire ? C'est la question que je continue à me poser. Je ne pense pas que le célibat ne vaille rien. Je trouve juste que le mien dure depuis trop longtemps. Alors, quel mystérieux obstacle invisible se dresse entre ma volonté et mes actes ? Je décide de me faire aider par Jérôme, qui est hypnothérapeute. Attention, Jérôme n'est pas n'importe quel hypnothérapeute. Il est celui qui m'a aidé à arrêter de fumer. En une séance, je suis passée de 2 paquets par jour à rien du tout. Il est l'incroyable Hulk des obstacles invisibles.
Ah, c'est bizarre, physiquement, j'ai l'impression d'être à la fois très grande et toute petite.
Et quand vous vous connectez à la toute petite?
C'est difficile parce qu'elle est vraiment petite. Ben, elle est presque informe. Elle est. C'est comme une fève.
C'est comme une fève. Qu'est-ce que ça vous fait justement ressentir à vous d'être en, j'allais dire, en contact, d'être en lien avec cette toute petite, presque informe, comme une fève?
Ça m'émeut. En fait, sous toutes les couches, elle a un peu écrasé.
Je vous invite à accueillir cette sensation qui vous émeut là. À lui laisser de l'espace.
Dans la mémoire d'un ordinateur, il y a toujours les anciennes versions qui sont là, mais dont on ne se sert pas. Et c'est comme si les anciennes versions de moi, elles étaient plus accessibles.
Et en quoi c'est important pour vous, ça ?
Je sais pas. Plusieurs fois dans ma vie, il a fallu que je me réinvente. Et ça m'a aidé, enfin. C'est comme ça que j'ai surmonté plein de drame.
D'accord.
En devenant une autre. Mais peut-être en chemin, j'ai perdu des choses, je sais pas.
Je continue d'aller voir mes ex, mais le voyage a pris une drôle de tournure. Car depuis Antoine, comme je suis célibataire, justement, je n'ai pas d'ex à proprement parler. Ceux que vous allez entendre à présent sont d'une autre nature que ceux que vous avez déjà entendus. Plus fugitifs, mais pas toujours moins importants. La période dont je vous parle commence en 2007.
Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles.
Année pendant laquelle on élit pour président...
On va vous en débarrasser.
...un homme qui nous traite de racailles. J'ai quitté Antoine, j'ai quitté la colocation. Julien n'en finit pas de me quitter. J'habite seule pour la première fois de ma vie. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon exosquelette, l'armure qui me protégeait de la méchanceté du monde. Je vais chez la psy 3 fois par semaine pour travailler sur la mort de mon père, assassiné 30 ans plus tôt. Je fais des cauchemars peuplés de meurtriers dont je suis tantôt la victime, tantôt la complice, le plus souvent les deux à la fois. Comme dormir est dangereux, je deviens insomniaque.
Mais l'idée à retenir de tout ça, c'est que quand on se meut pas pour rien, quoi. On se meut pour savoir des trucs.
Je ne veux pas prendre de somnifères ni d'antidépresseurs. Je fais de l'automédication. Je me sauve par la fête et les extasies. Je vais vous dire une des raisons pour laquelle les gens prennent de la drogue. C'est qu'elle fait maigrir. Je n'ai jamais été aussi mince, je ne me suis jamais sentie aussi désirable. Je dépense mes droits d'auteur en cachemire Zadig et Voltaire et en cabas à paillettes Vanessa Bruno. Talons, jupe courte, maquillage, j'ai bien l'intention d'exploiter à fond mon nouveau corps, tellement adapté aux standards de beauté du patriarcat. Jusque-là, je ne vous ai jamais parlé de sexualité. C'est parce qu'elle se confondait avec mes histoires de couple. Comme beaucoup de femmes, j'ai mis plusieurs années à m'abandonner dans l'acte sexuel, à comprendre ce que j'aime, à apprendre à le demander. Et ce long apprentissage, il s'est fait au sein de mes relations successives. Mais dans cette période de ma vie, pour la première fois, je veux du sexe et rien d'autre. À l'époque, mes rencontres commencent à peu près toutes comme ça.
Je t'entends quand tu parles.
Est-ce que tu m'entends quand je t'embrasse ?
Vas-y. Ouais, j'ai entendu.
Je rentre chaque soir avec un homme différent, parfois deux à la fois, et j'ai l'impression d'être une aventurière. En fait, je réponds aux nouvelles normes sociales qui imposent d'avoir une sexualité épanouie et de multiplier les partenaires. À l'époque, le site mythique est en pleine ascension et il sera bientôt détrôné par les premières applications du type Tinder. Il est bien loin, le Minitel rose de mon adolescence. Comme souvent, ce que je crois être mon invention n'est qu'une nouvelle injonction.
Fennec, hein. C'est un Algérien alors.
Pourquoi ?
L'équipe nationale d'Algérie, c'est les Fennec.
Ah bon ? Ouais. Je savais pas.
Eh ben voilà, c'est les Fennec.
Ok. Ouais.
Forcément, mes ex de cette période sont nombreux. Mais j'ai choisi d'aller voir Malik. Car si je l'ai rencontré dans les mêmes conditions que les autres, notre relation s'est transformée depuis en amitié.
Tu te souviens du soir où on a fini ensemble ?
Pas très bien. Toi non plus ?
Non, je m'en souviens pas.
Pour être honnête, je me suis posé cette question de quand est-ce que... On a vraiment eu la collision avec Adila, quoi. Non, la collision dans le bon sens du terme. Hein.
Moi, je me souviens quand même que le lendemain, je suis restée chez toi toute la journée. On a passé, ça devait être un dimanche, on a passé toute la journée, on a discuté, on a mangé, on a dû regarder un film, je sais pas quoi. Moi, l'autre raison pour laquelle je me souviens assez bien de la première fois qu'on a passé une nuit ensemble, c'est justement parce que j'ai réalisé que c'était la première fois de ma vie que je passais la nuit avec un arabe, ou un nord-africain. Ou comme...
Oui, un arabe, c'est le mot générique, c'est l'expression générique.
Et du coup, j'étais hyper fière de moi, parce que j'avais l'impression que ça allait contre toute mon éducation. Est-ce que toi, t'as l'impression que ça a joué dans tes rencontres
avec des femmes d'être arabes, dans un sens ou dans un autre.
Oui, alors je pense que j'en suis un exotisme, un étonnement. Je pense que ça, c'est arrivé, oui, avec certaines filles. Oui. Il y a plein de fois où je sais que, comme tu dis, genre des préjugés. Pas forcément des préjugés racistes et tout, mais qui pensent que, voilà, un arabe, ça va se comporter comme ça, parler comme ça, avoir ces manières-là. En fait, non.
J'en faisais partie de ces gens qui pensaient qu'un arabe, ça va se comporter comme ça. Chez moi, l'homme arabe était un individu qu'il fallait fuir, car il voulait soit me violenter, soit m'enfermer. Cette vision du Nord-Africain, sexiste, frustré et violent, c'est toute la société française qui la véhicule. Mais c'est toujours bizarre de se rendre compte qu'on a conservé un préjugé dont on était soi-même la cible. Ce préjugé n'est d'ailleurs pas le seul dont je me sois débarrassée dans le monde de la fête. J'y ai rencontré des gens auxquels je n'aurais jamais adressé la parole en temps normal, et dont certains sont devenus de vrais amis. La fête n'a pas seulement été un lieu d'étourdissement pour moi, elle a été aussi un endroit d'émancipation et de liberté.
Est-ce que la fête, ça a changé beaucoup de choses dans ta vie?
Oui, je dirais que oui. J'ai été introduit par des gens qui n'étaient pas de ma classe sociale. Un jour, mon pote du lycée m'a invité à une soirée à Paris. On est à Paris dans un club avec des gens que j'avais pas l'habitude de rencontrer, un peu lookés. Puis après, donc suite à cette soirée, on est allé chez le frère de mon pote qui m'y avait emmené, là, qui était DJ. Et on a continué à faire la fête. On s'est déguisé avec les trucs qu'il y avait dans le placard. Et faire des trucs fous.
C'était ton premier after, en fait.
C'était mon premier after, absolument. Et après, donc, en fait, à cette époque-là, c'était les 90, il y avait ce qu'on appelait des rêves, des free parties, des trucs comme ça. Et il y en avait parfois chez moi, là-bas, en banlieue, dans des forêts, des trucs comme ça. Et moi, j'avais mes potes qui dealaient des extas, des trucs comme ça et tout. Pour eux, c'est les drogués qui consommaient des extas.
Eux, ils consommaient quoi?
Du shit, mais à des quantités phénoménales, quoi, l'air. Et on était allé à une, et là, du coup, j'avais pris un extra dans le dos de mes potes.
Tu l'as pris en cachette de tes potes?
Ouais. J'ai dit, moi, je vais rentrer et tout, mais en fait, c'est juste pour m'esquiver et tout. J'ai bien attendu qu'ils partent et tout, et en fait, c'était génial, la musique était incroyable. Tu vois, les gens avaient des univers fous, parfois, je parlais avec eux et tout. Et les mecs te racontaient des trucs incroyables. Je me dis, putain, mais heureusement que je suis venu et que j'ai rencontré ces gens-là et tout, quoi. Heureusement, quoi. Et du coup, je pense que de cette manière, ça a eu une importance dans ma vie, quoi.
Cette période de fêtes incessantes et de rencontres a duré plusieurs années. Et j'ai fini par vivre par et pour moi-même. Ma première victoire, je m'en souviens, ça a été de me cuisiner un ceviche. Avant, soit je préparais des banquets pour les copains, soit je grignotais des chips dans mon lit. La nouveauté, c'est que je vaux la peine. La peine d'acheter ce que j'aime, la peine de passer du temps à le préparer et à le manger. Progressivement, je compte moins sur le regard des autres pour me rassurer. Je suis plus sûre de ce que je suis. Je troque mon exosquelette contre une colonne vertébrale bien solide. Je suis enfin une célibataire heureuse.
Autrement, ta vie d'avant, j'en pensais rien. Je te pense plus célibataire maintenant qu'avant. Pour moi, avant, tu n'étais pas célibataire. J'étais une jeune femme qui était libre, qui voulait être libre. Et ça, pour moi, c'était important. Parce que je suis partie d'Algérie quand même pour ça, pour que ma fille puisse vivre librement, qu'elle choisisse sa vie, qu'on ne lui impose pas.
Mais cette question de liberté de la femme arabe à laquelle ma mère fait allusion continue de me travailler. Et c'est pour ça que je m'intéresse à l'histoire de Charlotte. Charlotte est plasticienne, elle est née en France, mais sa mère est chilienne et son père marocain. C'est donc une racisée, comme on dit.
Tu sais, il y a un truc, comment on appelle ça en anglais, c'est le white passing. C'est quand tu parais blanche, mais qu'en fait, t'es racisée et du coup, voilà.
Ce qui m'intrigue, c'est que la première fois qu'on me parle d'elle, on me dit, elle fait la même chose que toi. Elle va voir ses ex pour leur demander pourquoi ils l'ont quittée.
Tous tes ex t'ont quittée ?
Tous les ex que j'ai aimés. C'est un peu terrible, mais c'est vrai que les relations qui ont compté pour moi, qui ont été importantes, c'est pas moi qui ai mis fin à ces relations. Ma dernière relation, elle a été peut-être la plus profonde que j'ai eue et la plus engageante aussi. Et la question du milieu social m'est apparue après comme une vraie question. À la base, je partais au Chili pour ne plus jamais revenir en France. Et puis évidemment, je l'ai rencontré un mois avant de partir. Le classique, on s'est rencontrés via des amis en commun, on se connaissait déjà. On s'est pécho, quoi. Et en fait, de là, c'est parti très vite. Je me sentais très très bien avec ce mec. Je pouvais être moi-même. Je me souviens m'être dit ça parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal à dormir avec les mecs. J'ai mal au ventre, je me retourne dans tous les sens, enfin c'est hyper inconfortable. Et je me souviens m'être dit avec cet Edgar là, que tout de suite, j'avais hyper bien dormi. J'étais bien avec quelqu'un. J'ai rarement été vraiment bien avec quelqu'un, je pense. On s'est dit que je savais pas trop combien de temps je partais, qu'on continuerait à s'écrire. Et en fait, on s'écrivait tous les jours. On s'appelait, je sais même plus si on s'appelait. En fait, je suis rentrée 4 mois après. Je suis rentrée pour l'amour, pour le love. Donc très vite, on a emménagé dans son appartement, qui était pas mal, mais qui était pas très grand. Mais donc voilà, d'un coup, c'est redevenu très intense. Et en même temps, t'as la vraie vie, quoi. Et puis d'un coup aussi, j'étais plus confrontée à son monde. Et après, la relation, oui, c'était un peu... on s'ajustait. La relation le fardait.
Ça veut dire quoi ?
Fardeau, je pense. Et que ça le pesait. Ça lui pesait. Et je pense que ça... Ça a coincé là. Donc en fait, il m'a réveillée pour me quitter, en rentrant, à 2h du matin. Et ça a été extrêmement violent, parce que ça s'est fait dans la nuit, moi je dormais. Je pense que j'ai dû à moitié me réveiller en le sentant rentrer. Puis moi, après, j'ai hurlé. J'étais un peu dans le choc de... Ouais, sous le choc, quoi. Il y a une chose que je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de ne pas avoir su lui dire, en fait, chut, je dors, et on en parle demain.
Par quel mécanisme tu penses que ça a joué dans votre relation la différence sociale ? C'est-à-dire, c'est quoi le lien pour toi entre cette espèce de trouble que tu as senti dans vos différences sociales et le fait qu'au bout d'un certain temps, ils te disent « cette relation est trop lourde ».
Alors en l'occurrence, lui, pas complètement, mais une partie de sa famille était vraiment aristocrate. Et moi, je dirais que je suis plutôt de classe moyenne, issue de l'immigration, enfin... Et lui, français de plusieurs générations, donc il y a la propriété. Moi, il n'y a pas la propriété de mon côté. Il y a la très grande propriété, en l'occurrence, parce qu'il était châtelain. En même temps, on avait en commun d'avoir fait les mêmes lycées. Il m'avait dit, mes grands-parents du côté aristo étaient quand même rassurés par ton côté chilien, du coup catho. Parce que ton côté marocain musulman, ça faisait un peu peur, quoi. Mais il me le disait sur le ton de la blague. Moi, j'avais ri aux éclats, genre ha ha ha, tu vois. Et après, cette phrase m'est revenue et je me suis dit, c'est quand même hyper violent de dire ça. J'ai été très bien accueillie, mais je pense que les milieux bourgeois et aristocrates accueillent très bien. On m'a pas du tout fait sentir que j'avais pas ma place. Mais parfois, je me demande en fait si le fait de faire comme si ça n'existait pas. Est-ce que c'est pas déjà une forme d'effacement ou de rejet de ce que tu es ? Et puis après, si je suis honnête, c'est aussi moi qui n'avais pas envie de cette vie-là, qui n'avais pas envie forcément de cette alliance. On allait dans des endroits, je disais, mais tu vois, il n'y a que des blancs, c'est pas possible. Et il me disait, mais non, c'est pas du tout... Enfin, ce truc qu'ont certaines personnes de pas vouloir porter le fardeau, un autre fardeau, tu vois. J'étais la relou, quoi. Tu vois, genre, on allait en festoche, et moi, je disais, mais il y a quand même que des blonds qui boivent des bières avec des paillettes, c'est quand même chiant. Et je cassais l'ambiance, tu vois. C'est politique, mais c'est aussi extrêmement intime. J'ai besoin, pas forcément d'être avec quelqu'un qui soit de la même origine sociale ou culturelle. Par contre, j'ai besoin de pas m'excuser quand je dis que quelque chose est violent pour moi ou que ça me questionne et que ça, avec le recul, tu vois, je me dis que j'aurais pas été moi-même, en fait.
Tu veux que j'aille interviewer Edgar ?
T'aurais des questions à lui poser, toi, à Edgar ?
T'as le trac ?
Un petit peu, ouais. Ça se voit, non ? Je suis concentrée. Je suis là, genre... Bon. J'ai un petit peu le trac, ouais.
Charlotte me confie qu'elle veut faire un film avec les interviews de ses ex, mais qu'elle a du mal à lancer son projet. Je lui propose une alliance. Je poserai des questions à Edgar pendant qu'elle le filmera.
En bas avec Adila, c'est bien. Il y a un code ?
C'est ainsi que nous nous retrouvons un après-midi au pied de chez Edgar, micro et caméra en main.
Pour moi, c'était la copine aux Beaux-Arts, photographe, brillante et tout. Et donc, je l'avais un peu toujours mis sur un piédestal, un peu inaccessible et tout. Et en fait, ouais, je me souviens de ça, ouais. En tout cas, je me faisais une image, et le jour où, en fait, finalement, ça s'est fait très simplement, on est rentrés ensemble, et tout est allé très vite, et j'étais agréablement surpris, parce que c'était assez fluide, quoi. C'était assez fort, on s'est pas trop quittés, et je me souviens des moments passés chez moi, à discuter jusqu'à tard le soir en buvant du rouge. Je savais, malgré tout, qu'elle devait partir au Chili, donc il y avait ce truc un peu de commencer cette histoire... quelques temps avant son départ, donc petit à petit, si, on a compris que ça pouvait exister au-delà du Chili, quoi, et que même pendant le Chili, du coup, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on restait des heures, et malgré le décalage horaire, on se démerdait pour se téléphoner, pour se skyper. C'est pour ça que c'était assez fort, hein, le début, c'est parti un peu très vite, il y a eu beaucoup de passion, c'était assez intense, mais je me souviens plus très bien du moment où elle m'annonçait qu'elle entrait, quoi. Si, je me souviens. J'ai reçu un texto de la capture d'écran de son voyage retour. C'était le 14 février, je crois. Et voilà, il y a eu mon anniversaire, il y a eu mes 30 ans, elle était là, elle a découvert ma famille, elle a rencontré ma maison de vacances, elle a rencontré mes potes. Donc voilà, c'était vraiment une installation d'un couple normal sur le long terme à Paris, quoi. Il y a eu des tensions, il y a aussi des tensions qui sont arrivées. Par moments, c'était j'avais l'impression que Charlotte savait mieux ce que j'étais et ce dont j'avais besoin que moi-même, en fait. Après, dans l'intimité, je sais plus si notre vie sexuelle aussi était... je sais qu'on a rencontré sur la fin des problèmes de désir l'un l'autre. Est-ce que c'était pas un peu les signes avant-coureurs de quelque chose ? Donc c'est plein de choses comme ça qui font constater la mauvaise pente, quoi. Je suis rentré un soir, je crois que j'étais à un concert où j'étais allé m'aérer un peu la tête. Et en rentrant, on a eu cette discussion. Ouais. Je devais avoir bu un peu pour me donner la force de le faire, parce que c'était vraiment pas quelque chose d'évident pour moi. Pour moi, c'était logique d'aborder cette question, et si ça n'avait pas été moi, ça serait probablement venu d'elle plus tard, quoi. Je me suis retrouvé à sortir de mes gonds, parce que Charlotte voulait des réponses un peu sur le pourquoi, sur mes sentiments, sur ce que j'avais pu ressentir tout ce temps, et... C'était mettre à jour des trucs plus ou moins enfouis et plus ou moins difficiles pour moi à sortir. Donc, c'est un peu bestial, quoi. Mais bon, tu cries parce que t'es en position de faiblesse. Mais je maintiens aussi qu'il y avait aussi une incompréhension.
Et la rencontre avec ta famille, pour toi, ça avait une importance particulière, le fait qu'elle soit d'une culture différente ?
Il n'y a pas eu de tension avec ma famille. Ils étaient très heureux de la rencontrer. En plus, moi, j'ai une famille, on peut dire, noble, un peu aristo, mais pas tradie pour autant, donc non, ça s'est bien passé. J'espère qu'elle a en tête que ça s'est bien passé.
À la fin, Edgar se tourne vers Charlotte, qui, cachée derrière sa caméra, n'a pas dit un mot durant toute la durée de l'entretien.
T'es d'accord avec ce que j'ai dit ?
Il y a des choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord, et il y a des choses avec lesquelles je suis pas du tout d'accord. Peut-être une chose à laquelle je tiens et le reste, je pense que c'est... On n'a pas eu une discussion, moi je dormais en fait, quand on s'est séparés. T'es arrêté rentré, je dormais, tu m'as réveillé et tu m'as quitté. C'est pas vraiment d'accord, pas d'accord, c'est ce que j'ai vécu. Mmh. Sinon après, tout ce que t'as dit, ça t'appartient, mais ça c'est...
D'accord.
Ça c'est important. Ben on arrête.
On arrête.
Ce qui m'intéresse dans cet échange, c'est que Charlotte n'a pas soulevé le désaccord dont elle m'a le plus parlé, le malaise social. C'est sans doute le propre de ces malaises-là, d'être trop vague pour qu'on arrive à les formuler. Comme Charlotte, moi aussi je suis toujours sortie avec des Gaulois. Je n'ai jamais eu le privilège de rencontrer un châtelain, mais si on aligne les prénoms de mes ex, Vincent, Régis, Antoine, Julien, ça fait plus penser à un colloque de notaire qu'à un lycée du 9-3. Mon éducation d'indigène civilisée m'interdit de m'intéresser à l'homme arabe, mais à la longue. Peut-être qu'il me manque aussi quelque chose du côté du colon. Si c'est le cas, coincé dans le portillon entre civilisation et barbarie, je n'ai pas tellement d'autre choix que d'être seule. Cette double impossibilité me touche d'autant plus que j'en ai connu un homme arabe, de très près. Mon frère Chami. Je l'ai côtoyé pendant 34 ans, jusqu'à ce qu'il meure dans un accident de scooter durant l'été 2010. Il est mon unique frère, et il est né 5 mois après la mort de mon père. J'ai appris à cette occasion que la foudre pouvait tomber 2 fois au même endroit. J'ai aussi appris qu'être célibataire, c'est comme être artiste de cirque. C'est super tant qu'on n'a pas d'accident. Parce que quand ça arrive, votre solitude vous saute à la gorge comme un chien mal dressé. La vidéo que vous entendez, il l'a tournée peu avant sa mort, à Dublin, où il vivait, avec sa compagne et sa fille Elsa.
Well done, Elsa.
Guérir de la mort de Chami, ça a consisté à laisser le temps transformer son absence en fantôme bienveillant. À accepter de vieillir sans lui. Et ça a été aussi de retourner en Algérie, enquêter sur la mort de notre père. Quoi qu'il en soit, ce n'est que plusieurs années plus tard que je retrouve le sens d'être en vie. Comme si quelqu'un avait rallumé la lumière. Et sous cette lumière-là, je me dis que finalement, même célibataire, ça vaut peut-être le coup d'avoir un enfant.
C'était le 4e épisode d'Exologie avec Malik, une série et un épisode signé Adila Benedjaizou, réalisé par Clémence Grosse avec un coup de main d'Éric Lancien. Cette série a été diffusée pour la première fois en décembre 2022. Si vous voulez écouter toutes les autres séries d'Adila Benedjaizou, rendez-vous sur le site de France Culture ou l'appli Radio France. Et notamment, en ce moment disponible, une grande série intitulée « Le revers de la médaille, ce que les médailles coûtent aux athlètes » par la même Adila.